On parle beaucoup de médiation de nos jours. Eh bien, figurez-vous que la Bible aussi en parle, et notamment à propos de Jésus-Christ. Nous ferons trois lectures dans la lettre aux Hébreux pour commencer. Trois lectures dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 8, verset 6 déjà. Hébreux 8, verset 6. Mais en réalité, Jésus possède un service bien supérieur. Et ce d'autant plus qu'il est le médiateur d'une meilleure alliance fondée sur de meilleures promesses. Et puis au chapitre 9, au verset 15... Chapitre 9, verset 15. Voici pourquoi il est, Christ, le médiateur d'une alliance nouvelle. Sa mort est intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, afin que ceux qui ont été appelés reçoivent l'éternel héritage promis. Enfin, chapitre 12, le début du verset 24, Hébreux 12, début du verset 24. Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle. Et puis, notre texte de référence ce matin. Alors, j'ouvre une petite parenthèse. Lorsque j'ai choisi ce texte, je ne savais pas que nous aurions un septième petit enfant, et je savais encore moins que ses parents l'appelleraient Timothée. C'est dans la première lettre de Paul à Timothée que nous trouvons ce texte. Première lettre de Paul à Timothée, au chapitre 2. Nous lirons les versets 5, 6 et le début du verset 7. 1 Timothée 2, versets 5, 6 et 7. Il y a un seul médiateur. Un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un homme, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Tel est le témoignage rendu au moment voulu et pour lequel, moi, Paul, j'ai été établi prédicateur et apôtre. De toutes les fonctions, toutes plus lumineuses les unes que les autres, remplies par Christ, celle de médiateur, évoquée ici par l'apôtre Paul, n'est certainement pas la moindre. D'où l'intérêt pour nous ce matin de la reprendre à nouveau en considération. Parce qu'il est important, si nous voulons rendre au Seigneur toute la gloire qui lui est due, que nous embrassions bien toute la richesse, non seulement de sa personne, mais encore de son œuvre. Pour commencer, arrêtons-nous un instant sur la signification du mot « médiateur », utilisé ici par l'apôtre pour qualifier Christ médiateur. Définition proposée par le dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, « médiateur ». Celui, celle qui s'entremet pour effectuer un accommodement, un accord entre deux ou plusieurs personnes, deux ou plusieurs parties. Le médiateur est donc avant tout une personne qui rapproche. D'où le choix de Paul, appeler Christ médiateur. Parce que s'il a jamais existé un être dont l'office fut de rapprocher et de réunir, c'est bien lui. Lui dont il nous est dit à plusieurs reprises qu'il a ramené la paix entre Dieu et les hommes notamment. C'est donc à son glorieux ministère de réconciliation que nous renvoie nécessairement le titre particulier « médiateur ». Qui lui est très justement reconnu dans notre texte. Un ministère accompli pour le plus grand bonheur de tous, à commencer par celui, ne l'oublions pas, de Dieu lui-même. Sur lequel je propose que nous nous arrêtions donc quelques instants ce matin, le temps d'en faire apparaître tour à tour la justification, l'initiateur, l'artisan, le prix, la conséquence, les bénéficiaires, et enfin les effets. Et pour commencer donc, la justification de cette œuvre de réconciliation. Après tout, pour que Dieu et les hommes vivent en harmonie, était-il bien nécessaire qu'intervienne un médiateur? Et la réponse est oui. Alors pourquoi? Très simplement parce que le contact était rompu entre les deux parties. L'œuvre de médiation de Christ ne s'explique que dans ce contexte. Depuis l'origine ou presque, Dieu et l'homme sont comme coupés l'un de l'autre. À cause du péché que l'on appelle le péché originel, cette coupure est une réalité incontournable. Oui, ce péché originel, ce péché dont Paul nous dit qu'il a immédiatement privé l'humanité entière de la présence divine. Un constat qu'Ésaïe faisait déjà lorsqu'il écrivait, je le cite, « Non, le bras de l'Éternel n'est pas devenu trop court pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont nos fautes, qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés, nos péchés, qui vous l'ont caché et l'ont empêché de vous écouter. » Depuis la faute originelle, donc, Dieu a rompu avec l'homme. Et de celui qui devait être son ami, il a fait son ennemi, un vase de colère. Je ne sais pas si vous mesurez l'horreur de l'expression. Un vase de colère, écrit Paul, tout prêt pour la perdition. Voilà pourquoi nous osons affirmer qu'aucune relation harmonieuse entre Dieu et les hommes ne pouvait être rétabli sans l'intervention d'un tiers faisant office de médiateur. Parce qu'à cause du péché, il n'y avait plus entre eux qu'inimitié. Mais il nous faut poursuivre et considérer, après la justification, l'initiateur de cette œuvre de réconciliation. La question ici est celle-ci. Qui est à l'origine de la réconciliation entre Dieu et l'homme ? Une seule réponse possible, Dieu. Par lui-même, l'homme était incapable de se réconcilier avec celui qu'il avait trop gravement offensé. L'initiative d'un rapprochement ne pouvait donc venir que de Dieu, et c'est de lui qu'elle est venue finalement. S'adressant aux chrétiens de Corinthe, l'apôtre Paul, lui, toujours, insiste, et tout cela vient de Dieu. Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ. Avant de conclure, Dieu était en Christ, il réconciliait le monde avec lui-même. Il réconciliait le monde avec lui-même. La réconciliation est donc d'abord l'œuvre de Dieu. Et cela est important dans la mesure où le risque existe toujours pour nous de nous figurer Dieu comme tellement monté contre l'homme qu'il était incapable de lui vouloir encore du bien. D'où la nécessité pour que l'histoire de la relation entre le Créateur et sa créature ne s'achève pas par une rupture définitive d'un médiateur, le Fils en l'occurrence, qui, à la différence du Père, était encore capable, lui, d'aimer le pécheur et de venir à son secours. C'est ce que nous entendons parfois, c'est ce que nous lisons parfois. S'il est un auteur que j'apprécie particulièrement, que certains connaissent peut-être ici, c'est Julien Green. Son journal en particulier est d'une profondeur et d'une finesse, d'une sensibilité exceptionnel et je lui dois beaucoup d'encouragement au cours de ma vie. Ce qui ne l'a pas empêché d'écrire une telle ânerie. Que dire en effet d'une telle représentation, sinon qu'elle frise le blasphème. Le Père et le Fils n'ont jamais porté un regard différent sur l'homme rebelle. Ensemble, ils l'ont honni. Ensemble aussi, ils ont néanmoins voulu son bien. Aussi est-ce ensemble encore qu'ils formèrent dès le début l'incroyable projet de se rapprocher à nouveau de lui en vue d'une réconciliation définitive. Le Père et le Fils. Un projet qui en dit long sur l'incomparable miséricorde non seulement du Fils, mais aussi du Père, auquel, rappelle Paul, nous devons finalement d'avoir été aimés alors même que nous étions encore complètement hostiles à sa personne. Mais venons-en maintenant à notre troisième sujet de réflexion, l'artisan de cette œuvre de réconciliation. C'est Dieu qui réconcilie le monde avec lui-même, nous venons de le voir, Dieu, l'initiateur de cette œuvre. Mais il le fait, nous dit-on, par Jésus-Christ. Ou encore, mais cela revient au même, en Christ. Le premier artisan de cette réconciliation, donc, Christ. D'où ce signe, un signe de médiateur que lui reconnaît Paul dans son inoubliable formule. Je cite à nouveau 1 Timothée 2, verset 5. « Un seul Dieu, un seul médiateur aussi, entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus, Christ. » Mais au fait, pourquoi lui ? Pourquoi lui, Jésus ? Christ et pas un autre. Tout simplement parce que si quelqu'un devait faire office de médiateur entre Dieu d'une part et l'homme de l'autre, il fallait qu'il fût aussi proche de l'un que de l'autre. Or, qui d'autre que Jésus, Christ, a jamais été pareillement situé, à la fois vrai Dieu et vrai homme ? Il appartenait également aux deux parties. Sa position était donc idéale pour les réconcilier. Mais il nous faut poursuivre et considérer maintenant le prix de cette œuvre de réconciliation. Son prix. Il est indiqué dans notre texte, nous l'avons évoqué à plusieurs reprises depuis le début de ce culte, et je reviens à notre texte. En effet, écrit Paul, il y a un seul Dieu, il y a aussi un seul médiateur, entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Aucune erreur n'est donc possible ici. Le prix de notre réconciliation avec Dieu, la vie même de Christ. La vie même de Christ. Lorsque nous étions ses ennemis, écrivait déjà l'apôtre Paul, aux chrétiens de Rome, nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils. Pas étonnant que nous aimions à la rappeler dimanche après dimanche comme nous l'avons fait tout à l'heure en prenant le pain et le vin. L'homme pouvait-il seulement imaginer que le prix de son rapprochement avec Dieu était aussi exorbitant ? Le Père et le Fils, eux, le savaient depuis toujours. Ni l'un ni l'autre n'a cependant hésité. Au temps marqué, nous dit la Bible, le Père a donné son Fils. Et le Fils, lui, a offert sa vie. Afin que par ce sacrifice fût ôté à jamais cette faute hideuse qui semblait devoir priver éternellement l'homme de la faveur divine et de le réserver pour la colère. Oui, le Père a livré son Fils, son unique, son bien-aimé. Et le Fils, nous a-t-il dit, s'est donné lui-même en rançon pour tous. Lui qui n'avait jamais connu le péché, a pris sur lui tout le péché du monde, au point que Dieu l'a identifié au péché et l'a frappé alors, faisant retomber sur lui, nous dit encore l'Écriture, la perversité de tous les hommes. Votre perversité, ma perversité, la perversité de tous les hommes, nous dit Ésaïe. Faisant retomber sur lui la perversité de tous les hommes, il l'a broyé. Je cite encore le prophète. Et le fils est resté muet, il n'a pas ouvert la bouche, parce que c'était pour cette heure et cette œuvre qu'il était venu. Cette heure où s'étant chargé de toutes nos souillures, quel fardeau, il subirait à notre place le châtiment que nous méritions, pour que ce châtiment, aucun d'entre nous ne le connaisse jamais. Car s'il est mort, c'est bien dans ce but avant tout, afin, écrit encore l'apôtre Paul, de nous sauver de la colère. Et de cette colère, nous avons effectivement été sauvés. C'est la bonne nouvelle. C'est l'Évangile. Sauvés par son sacrifice. Au calvaire, le Fils a détourné sur lui l'effroyable courroux de Dieu. Effroyable mais juste. Dont jusque-là nous étions les cibles pitoyables. D'où ces deux expressions admirables pour résumer la croix, celle d'Ésaïe d'abord, la punition qui nous donne la paix, la punition qui nous donne la paix. Celle de Jésus lui-même ensuite, le sang de la nouvelle alliance. Deux formules qui ne laissent subsister aucun doute sur la fécondité de cette mort. D'elle est née la paix entre Dieu et les hommes. Mais nous touchons là déjà à notre cinquième thème de réflexion. La conséquence de cette œuvre de réconciliation, la conséquence. Deux mots prononcés il y a un instant suffiront, me semble-t-il, à la résumer. Les mots de paix et alliance. Paix d'abord. Il ne fait aucun doute que la conséquence première et ultime de l'œuvre de médiation de Christ, c'est la paix entre Dieu et les hommes. En balayant à la croix l'unique obstacle qui séparait les hommes de Dieu, le péché, Christ a rendu définitivement praticable la voie de la réconciliation. Et Dieu, qui brûlait de se rapprocher des hommes, s'y est aussitôt comme engouffré pour les rejoindre. Et la rencontre a eu lieu. Prodigieuse rencontre où nous avons appris en même temps que l'univers tout entier que Dieu ne nous en voulait plus. Dieu ne nous en voulait plus. Mieux qu'il se réjouissait désormais de pouvoir nous appeler ses amis. Les cibles nouvelles de sa grâce, de sa bienveillance, de sa patience, de sa fidélité, en un mot, de son amour. Oui, ses amis. Quelle richesse immense que celle de la bonté de Dieu. Voilà pour le premier mot, paix. Le second maintenant, alliance. Car cette paix que Dieu a établie entre nous, avec nous plus exactement, en Jésus-Christ, cette paix, nous dit l'Écriture, Dieu a tenu à la sanctionner par une alliance. Celle-là même dont Christ a pu dire qu'elle était en son sang versée pour la multitude, pour le pardon des péchés. Autrement dit, qu'elle avait été scellée par son sacrifice. Il ne nous est pas possible ce matin de nous arrêter longuement sur le sujet de l'alliance. Nous nous contenterons donc ici de rappeler brièvement ce que nous en dit la lettre aux Hébreux. Savoir, outre quel est le fruit de l'œuvre de médiation de Christ, qu'elle est nouvelle, fraîche et meilleure, ce sont les termes que nous trouvons dans cette très belle lettre, nouvelle par opposition, bien sûr, à l'ancienne devenue caduque, fraîche aussi par quoi nous entendons bienfaisante, vivifiante, tonifiante comme l'eau d'une source, meilleure enfin, entendez, que l'ancienne. Pourquoi ? Bien en raison déjà de l'éminence de son médiateur, mais aussi parce qu'à la différence de l'ancienne, cette alliance est intérieure. Elle transforme les cœurs qui habitent désormais l'Esprit de Dieu. Elle est universelle, elle atteint les nations aussi bien qu'Israël. Elle est parfaite, elle assure à jamais un accès permanent auprès de Dieu, dont la communion source de vie devient un bien inaliénable pour ceux qui la possèdent, et éternelle, dans la mesure où, ayant été scellée par le sang, non plus celui des animaux, mais celui de Christ lui-même, elle est irrévocable. La conséquence donc de cette œuvre de réconciliation de Christ, une paix absolue entre Dieu et les hommes, sanctionnée par une alliance éternelle, que personne ne pourra rompre, personne. Un mot maintenant concernant les bénéficiaires de cette œuvre de réconciliation. Qui sont ceux avec lesquels Dieu s'est finalement réconcilié en Jésus-Christ ? 1 Timothée 2, versets 5 et 6, notre texte de référence, encore une fois. Il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. 2 Corinthiens 5, verset 19, « En effet, Dieu était en Christ, il réconciliait le monde avec lui-même. » La réponse, donc, les bénéficiaires, tous les hommes. À condition que nous nous entendions sur le sens de la formule. C'est un extrait de la lettre de Paul aux Éphésiens, cette fois, qui nous permettra, je crois, d'interpréter justement le mot « tous ». Éphésiens, chapitre 2, versets 13 à 17, écoutez bien. « Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous, les païens, qui jadis étiez loin, vous avez été rendus proches par le sang de Christ. C'est lui, en effet, qui est notre paix. De ce qui était divisé, il a fait une unité. Dans sa chair, il a détruit le mur de séparation, la haine. Il a aboli la loi et ses commandements. Il a voulu ainsi, à partir du juif et du païen, créer en lui un seul homme nouveau, en établissant la paix et en les réconciliant avec Dieu, tous les deux, en un seul corps, au moyen de la croix. Là, dit encore l'apôtre, il a tué la haine, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient proches. En d'autres termes, lorsque nous lisons de cette œuvre de réconciliation réalisée par Christ, qu'elle a touché tous les hommes, nous croyons qu'il faut comprendre qu'elle a touché des hommes de toute race, de toute origine, puisque le mot race n'existe plus. Trop de textes indiquent clairement que tous n'échapperont pas à la colère pour que nous ne puissions penser autrement. Reposons donc la question, qui sont ceux avec lesquels Dieu s'est finalement réconcilié en Jésus-Christ ? En réalité, tous ceux qui ont choisi d'accueillir cette réconciliation comme un don gratuit de Dieu. Le cadeau qu'il leur faisait. Et ceci, quelle que soit leur origine. Car je cite ici un commentaire du fait, établi plutôt, que Dieu est l'auteur premier et principal de la réconciliation, il ne s'ensuit pas que l'homme ait ici une attitude purement passive. Il doit accueillir le don de Dieu. L'action divine n'exerce son efficacité que pour ceux qui veulent bien y consentir par la foi. De là le cri pressant de Paul, « Nous vous en supplions au nom de Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. » Un appel solennel qu'il nous faut adresser ce matin encore à celle ou à celui qui n'aurait toujours pas fait la paix avec Dieu, en confessant son péché et en implorant la grâce divine, et qui pour cette raison serait encore sous la colère. Un dernier mot maintenant concernant cette fois les effets de cette œuvre de réconciliation. Pour ses bénéficiaires, ils sont inestimables. C'est d'abord, nous l'avons dit, un changement de statut. Un changement de statut. Ceux qui jusque-là étaient les ennemis de Dieu, vous et moi, sont devenus ses amis. Pour reprendre l'étonnante formule de Paul, ils étaient vases de colère. Et Dieu, par Jésus-Christ, a fait d'eux des vases de miséricorde. Un changement donc radical qui permet à ceux qui en ont fait l'expérience, vous et moi, je l'espère, d'attendre de Dieu désormais que le meilleur de toutes choses. Nous sommes ses amis, les cibles de sa grâce, de sa sollicitude, de sa patience, de sa bonté, de sa générosité. Un changement de position donc, d'abord, mais aussi et enfin un renouvellement de l'être tout entier. Décrivant celui qui, en Christ, a été réconcilié avec Dieu, l'apôtre Paul, lui encore, écrit ceci, je le cite, 2 Corinthiens 5, 17, « Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Or, quelle est cette réalité toute neuve, cette création nouvelle dont l'apôtre nous parle ici ? Sinon d'abord cet homme nouveau dans lequel nous discernons à la fois l'individu et la communauté réconciliée avec Dieu. Un homme tout neuf que Christ, sitôt son œuvre de médiation accomplie, s'est proposé d'élever progressivement à l'état d'adulte, à sa propre taille, afin qu'au jour de son avènement, il puisse se le présenter à lui-même, splendide, sans tache ni ride, ni aucun défaut, saint et irréprochable, comblé du fruit de justice à la gloire et à la louange de Dieu. Oui, écrit l'apôtre aux Colossiens cette fois, « Vous qui autrefois étiez étrangers, vous dont les œuvres mauvaises manifestaient l'hostilité profonde, voilà que maintenant Dieu vous a réconcilié dans le corps périssable de son Fils par sa mort. Pourquoi ? Pour vous faire paraître devant lui saint, irréprochable, inattaquable. » Notre conclusion. En connaissez-vous beaucoup, vous, des vérités plus belles que celles de la réconciliation ? Cette initiative souveraine et victorieuse de Dieu, selon Michel Boutier, qui, à travers la croix, a ouvert le chemin de l'amour et a pu réconcilier avec lui un monde qui n'avait précisément jamais esquissé le moindre geste. Lorsqu'il évoque pour nous cette doctrine sublime, le Nouveau Testament, écrit encore Michel Boutier, le Nouveau Testament a conscience d'être dans l'opposition la plus fondamentale avec toutes les religions passées et futures de l'humanité, et d'être absolument l'évangile, la bonne nouvelle, l'évangile de la grâce. Puissions-nous nous émerveiller toujours ensemble devant ce geste divin stupéfiant de miséricorde et de générosité, et glorifier, glorifier encore, glorifier toujours ce médiateur unique par qui tout, tout a été accompli. Amen.